Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir un signe.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter, pendant une heure. Nos invités reviennent sur un jour important de leur vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dove Alphon. Bonjour Dove Alphon.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter.
Dove Alphon, vous êtes écrivain. Vous avez publié il y a quelques mois un roman très remarqué dont on a pas mal parlé, qui s'appelle Unité 8200.
Très bien, vous le dites déjà très bien. Je remarque que vous êtes probablement une ancienne des services de renseignement. Reste à découvrir de quel pays.
Alors ça, je vous dirai un peu plus tard, si vous êtes gentil. Vous êtes aussi journaliste, correspondant du journal Haaretz à Paris. Vous avez aussi pendant longtemps été le rédacteur en chef de ce journal. Mais ce qui nous intéresse chez vous, Dove Alphon, c'est que plus jeune, vous avez aussi travaillé pour la prestigieuse unité 8200, unité d'espionnage du renseignement militaire israélien. Mais vous y faisiez quoi, Dove Alphon?
Je pourrais vous le dire, mais il va y avoir plein de choses durant la diffusion de cette émission et il va se poser des questions. Mais en règle générale, le service militaire étant obligatoire en Israël, à l'âge de 18 ans, je me suis donc présenté à Tel Aviv et nous étions une soixantaine dans une grande salle et un colonel, je ne savais pas alors lire les grades, hein, nous a dit en hébreu, vous avez été choisi parmi des dizaines de milliers de candidats. Certains étaient très doués pour les mathématiques. C'était clair déjà quand il s'asseyait avec plein de feuillets mystérieux. Et d'autres étaient doués pour les langues, ce qui était mon cas. On a passé des tonnes de tests et après, on était probablement une douzaine. On nous a dit, voilà, vous avez été choisi, vous allez maintenant servir dans une unité. Je vais vous dire son numéro de code, mais dès cet instant, vous l'oubliez et vous ne direz plus jamais que vous allez servir dans l'unité 8200.
On va faire tout le contraire pendant une heure, nous. Alors, Dove Alphon, vous avez choisi comme journée particulière le 6 octobre 1973. Ce jour-là, les troupes syriennes et égyptiennes attaquaient par surprise. Et simultanément, Israël, c'était le début de la guerre de Kippour.
Le conflit israélo-arabe s'est rallumé brutalement au Proche-Orient. Les forces syriennes et égyptiennes affrontent les forces israéliennes depuis 13 heures, heure de Paris. Batailles aériennes et combats au sol sur plusieurs fronts, avec l'intervention des tanks et de l'infanterie. L'opinion internationale est mobilisée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Voilà résumé à grands traits la situation de guerre qui s'est installée aujourd'hui au Proche-Orient. Les événements de l'après-midi sont en tout cas les plus graves dans cette partie du monde depuis la guerre des Six Jours en juin 1967. Ce qui surprend, c'est la soudaineté avec laquelle les hostilités se sont déclenchées. Ce matin, on apprenait en Israël que les autorités rappelaient les réservistes, mettaient la population en état d'alerte, réunissaient d'urgence le gouvernement autour de Madame Meir. Une série de mesures d'autant plus retentissantes que c'était aujourd'hui le jour sacré du grand pardon, où tout s'arrête habituellement en Israël.
C'était un extrait de l'émission 24 heures sur la Une diffusée à 20h le 6 octobre 1973. Vous étiez où ce jour-là, Dove Alphon ?
Alors j'avais 12 ans.
Ouais.
J'étais à Ashdod, qui est une ville portière, un port en fait, hein. C'est vraiment un port qui influence la ville entière sur la Méditerranée. C'est une ville très méditerranéenne au centre d'Israël, avec une forte population francophone. Mes parents, qui étaient français, avaient décidé un an auparavant qu'il était temps de réaliser leur rêve sioniste et de faire leur alia vers Israël. Et donc, mon frère et moi, nous nous sommes retrouvés. J'avais 11 ans, il en avait 4 sur un bateau de la TSIM, la compagnie israélienne sioniste publique. Le bateau s'appelait Théodore Herzl, qui est au nom du fondateur du sionisme. Et deux semaines après, nous étions arrivés au port d'Ashdod, où nous avons vécu. Donc j'avais exactement, c'était un an après. Et c'est là que soudain, alors que c'était effectivement un jour férié, bien sûr, qui pour donc tout s'arrête, je jouais dehors et des alarmes ont retenti dans tout le pays. Et c'était là.
Et vous, l'image que vous avez de vous, que vous gardez de vous, de Valfons, c'est vous dans la rue, jouant dans la rue?
Oui. Oui, je pense d'ailleurs que je n'avais pas beaucoup d'amis à ce stade, donc je peux supposer que je jouais avec moi-même, peut-être avec mon frère, sans doute aux billes. J'ai cette image, et c'est vrai que non seulement on a cette impression d'alarme, bien sûr, j'ai cette histoire de cacophonie que je m'en souviens très bien, de sirènes hurlantes qui n'en finissent pas, mais aussi j'ai l'impression d'un noir, d'une obscurité, ce qui est faux, puisque les attaques ont débuté effectivement vers 14h.
Et vous avez pourtant une idée du noir.
Et pourtant, j'ai cette impression d'obscurité, oui. Mais je parlais très mal la langue. J'étais là depuis un an, je ne connaissais rien, ni des codes sociaux, ni des normes, alors penser des réglementations en cas de guerre. Et surtout, je voyais bien autour de moi une panique, hein, une grande fébrilité qui laissait penser que j'étais en danger, que nous étions en danger, les civils, les voitures, les enfants. Effectivement, on attendait des bombardements puisqu'Israël avait été pris de surprise et que sa fameuse aviation ne pouvait absolument rien faire face à ces vagues d'attaques du nord et du sud concertées. Et donc j'étais à n'y rien comprendre.
À n'y rien comprendre. Vos parents ne vous ont pas expliqué?
Ah si, mais il faut bien comprendre pour que pour des Parisiens venus de la rue Broca un an auparavant dans cet état qui était et qui l'est encore assez militaire, on pourrait presque dire militariste, mais tout le monde autour d'eux savait à peu près ce qu'il fallait faire, bien qu'Israël n'ait jamais été dans une situation pareille depuis 1948, mais quand même, mais eux ignoraient tout de cela. Ils savaient comment payer les cotisations sociales à la sécurité sociale, comment prendre le métro, et donc on pouvait prendre le bus en Israël, ils comprenaient le système. Mais par contre, peindre les fenêtres en noir, mettre du papier collant pour éviter qu'elles se brisent lorsque des avions passeront le mur du son au-dessus de vos têtes, ils l'ignoraient.
Alors en 1973, Dov Alfon, le monde entier écoutait cette chanson-là. Thank you. de l'année 1973, NJ.
C'est un contraste quand même par rapport aux événements que je ressens. Mais c'est une très belle chanson, donc c'est parfait.
C'est parfait, ça vous va?
Absolument.
Alors, le 6 octobre 1973, c'est votre journée particulière, Dov Alphonse. Ce jour-là, donc Israël était attaqué par surprise et simultanément par les armées syriennes et égyptiennes sur le plateau du Golan et dans la péninsule du Sinaï. C'était le début de la guerre du Kippour, mais ce n'est que le lendemain, Dov Alphonse, que vous avez commencé à comprendre ce qui se passait vraiment.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. 24 heures après le déclenchement de cette nouvelle guerre israélo-arabe, le champ des opérations et la violence des combats s'étendent gravement. On s'est battu avec acharnement toute la nuit et toute la matinée sur tous les fronts terrestres, aériens et maritimes. Une situation aggravée par la confusion et l'incertitude, et ce n'est certainement pas avec les communiqués des différents états-majors, qui comportent leur dose habituelle d'action psychologique, que l'on peut avoir une vue nette de la situation. Celle-ci change de plus d'heure en heure. Sur le terrain, la nuit a été principalement marquée par la contre-offensive des troupes israéliennes qui sont intervenues sur tous les fronts avec l'appui de l'aviation. Si l'offensive syrienne aurait été stoppée sur le Golan, c'est ce que disent les Israéliens, les forces égyptiennes semblent solidement déployées le long de la rive orientale du canal de Suez. Dans toutes les grandes capitales politiques du monde, on suit évidemment minute par minute l'évolution de la guerre, dont personne ne peut encore dire quelle ampleur plus grande elle pourrait prendre, ni quelle sera l'importance de ses répercussions dans l'équilibre politique du monde.
C'est une archive donc du 7 octobre 1973. Dov Alphonse, vous vous souvenez de vous donc le 6 octobre assis dans la rue en train de jouer aux billes dans un décor sombre comme ça. Et alors le 7 octobre, les souvenirs sont plus précis pour vous ?
C'est l'école bien sûr, puisque le jour férié de Kippour est terminé, le jeûne est terminé, les prières ont été dites. J'ai le vague souvenir d'ailleurs, dans la soirée, mon grand-père est allé à la synagogue pour prier à la survie de l'État d'Israël, ce qui n'était pas donné du tout déjà dès les premières heures. Le lendemain, c'était encore bien sûr le point d'interrogation, comme on l'a très bien entendu dans ces archives, devenait gigantesque. Et donc, je me présente à l'école à 8 heures comme d'habitude, mais toutes les règles que j'avais apprises cette année-là ont été brisées. L'instituteur, par exemple, n'était pas là. Nous étions donc dans la cour les 30 élèves, mais l'instituteur n'était pas là parce que, bien sûr, il avait été réquisitionné mobilisé de force pendant la nuit avec toutes les forces de réserve. J'ai le souvenir que la directrice était à peu près la seule présente, c'était une femme, mais d'autres institutrices n'étaient pas là non plus, elles avaient été mobilisées aussi.
Les femmes aussi.
On était là. Et j'ai ce souvenir d'être dans une classe où personne ne chahutait, alors qu'on n'avait pas d'instituteur, ni remplaçant, ni rien. On regardait le tableau fixement. Certains échangeaient, il n'y avait bien sûr pas de téléphone portable ni de moyen d'avoir l'information de toute façon. Et je me souviens de mon voisin, immédiat dans cette classe d'école, qui regardait le ciel. C'était un jour de brouillard et de pluie, le 7 octobre 1973.
C'est drôle comme vous vous souvenez des lumières et du ciel.
Absolument, oui. J'ai des souvenirs très précis des couleurs, de certaines odeurs même. Et il me dit, regarde le ciel, qui est un brouillard nuageux, il pleut, et il me dit, Zayom Chara le Matosim, je vous traduis, c'est un jour très mauvais pour l'aviation aujourd'hui. Alors, venant des albums de bandes dessinées, du petit Spirou et même d'Astérix et Obélix, il m'était difficile de comprendre ce qu'il venait dire. Et aussi le naturel total avec lequel il le disait, comme si un paysan de la Camargue vous dit « les chevaux, aujourd'hui, il va falloir les libérer », me laissait comprendre avec une grande force que je ne comprenais pas ce qui se passait autour de moi.
Alors qu'est-ce qui a fait que vous avez compris ? C'est une autre discussion avec un autre de vos amis ou peut-être on vous a expliqué ?
Je pense que très tôt quand même, Le ministère de l'Éducation nationale en fait en sorte, si je me souviens bien, c'était des étudiants ou des élèves de terminale qui n'étaient pas mobilisés, donc soit des invalides. J'ai un vague souvenir de quelqu'un sur béquille qui vient dans la classe pour nous expliquer ce qu'il se passe. Mais en tout cas, on commence à nous expliquer que le pays est en danger, qu'il est envahi du nord et du sud. Ashdod étant au centre, nous-mêmes ne sommes pas encore en danger, je me souviens de cette phrase, ne sommes pas encore en danger, mais que nous allons maintenant sortir, on va nous répartir en groupes et que nous allons aider à la survie du pays. Et donc je me suis retrouvé dans un petit groupe d'une dizaine d'élèves, filles et garçons, et nous avons commencé, je m'en souviens, sur une autoroute, je suppose que c'était l'autoroute Ashdod Tel Aviv, on stoppait les voitures, il y avait trois policières, et notre rôle était de peindre en bleu foncé les phares des voitures, vu que la nuit... il serait trop dangereux de rouler sans phare, mais dans ces règles de pays sous bombardement, les phares doivent être quand même les plus obscurs possibles. Donc on avait de grands pots de peinture à l'huile, bleu foncé, d'une très belle couleur, je m'en souviens aussi, et je peignais allègrement. Allègrement, je me souviens que je faisais des ronds pour que ce soit plus joli au lieu de faire des giclées de peinture sur des phares qui étaient soit rectangulaires. J'ai commencé oui, ça c'est une voiture française, donc les phares sont plutôt ronds à cette époque-là. Ça c'est une voiture allemande, donc c'est etc etc. Et on a dû faire, je sais pas, moi j'ai le souvenir d'au moins cinq grosses boîtes de peinture.
Alors, je rappelle que vous aviez 12 ans. Vous vous souvenez de l'odeur de la peinture?
Oui.
Quelle odeur, justement?
C'était une peinture à l'huile. Vraiment, c'était quelque chose de... C'était presque une impression d'allégresse. Ah oui, c'est de la création, là, ce que je fais.
Mais vous aviez peur ou pas de Valfond, quand
J'étais
même?
J'étais très désemparé. J'étais très désemparé. D'abord, c'est non seulement tout le monde était désemparé, d'abord... Mais surtout, je pense que cette impression d'être et de ne pas être, beaucoup de philosophes ont parlé de cette impression de l'immigrant ou de soudain d'être sans y être tout à fait. Je me sentais en dehors de mon corps. Je regardais ce que je faisais. Je pouvais l'observer. Je m'observais peindre les phares d'automobiles sur une autoroute entourée de policières. Je m'en souviens. Mais d'un autre côté, c'était une impression très bizarre de ne pas y être.
Cette quatrième guerre israélo-arabe, que l'on appelle déjà la guerre de Yom Kippour, s'avère être la plus dure et la plus meurtrière de l'histoire d'Israël. Les Israéliens jettent dans la bataille toutes leurs forces de réserve, et malgré cela, les Égyptiens s'accrochent à la rive orientale du canal de Suez. Ce qui frappe tous les observateurs, c'est l'âpreté des combats, le chiffre des effectifs, près d'1 million d'hommes, l'importance du matériel, près de 2000 chars, et l'agressivité des combattants. En somme, sur le terrain, autant de combattants et de matériel qu'en 1968 au plus fort de la guerre du Vietnam.
J'ai voulu qu'on entende cette archive parce que je n'arrivais pas à croire à ces chiffres.
Oui.
Mais c'est ça qui se passe.
C'est une guerre capitale pour comprendre tout ce qui se passe au Moyen-Orient, puisque cette impression d'une guerre totale contre l'État juif est ce qui a formé tous les dirigeants israéliens des 30 dernières années et sans doute des 20 prochaines aussi. Qu'ils soient enfants comme moi ou qu'ils aient été déjà militaires ou peut-être même en poste. Et donc... Tout ce que l'on dit sur cette hystérie israélienne à la sécurité, tout ce que l'on dit sur que les Israéliens ne comprennent pas qu'il faut vivre au présent et que la paix est là et que la guerre ne peut pas éclater d'un jour ou l'autre sans des signes d'avertissement, tout cela ne peut être dit sans bien comprendre la guerre de Kippour. Et c'est une guerre qui a été un peu oubliée malgré des pertes énormes et comme on l'a très bien entendu, je dirais presque la sauvagerie des combats.
Mais alors donc cette guerre vous a fait comprendre à vous aussi un des aspects fondamentaux de ce pays, la psychologie israélienne, l'anxiété existentielle des Israéliens. qui provient évidemment de la Shoah, mais aussi en grande partie de cette guerre de Kippour et de l'attaque surprise. C'est la surprise, c'est ça ?
Tout à fait, tout à fait. Je pense que ces éléments d'ailleurs se retrouvent, puisque pour certains rescapés de l'Holocauste qui ont écouté ces sirènes, on a des rapports médicaux et des recherches ont été faites sur certains rescapés de la Shoah qui ont revécu leur arrestation surprise en pleine nuit à Paris ou à Berlin et qui n'ont pas remis après les compteurs à l'heure pendant des mois et quelquefois des années. Donc pour eux, ils étaient encore une fois en 1939. Et cette impression d'être toujours sur le point d'être tué va certainement, personnellement, m'accompagner pendant de longues années.
C'est-à-dire que ce traumatisme, ce que vous êtes en train de dire, de Valfon, c'est que vous le portez vous aussi.
Je pense que d'une certaine manière, quand je suis en Israël, dès que j'atterris, je le porte immédiatement. Dès que les portes de l'avion s'ouvrent et que je suis face à des panneaux en hébreu m'indiquant les bagages, la douane, le contrôle des frontières et les taxis, je suis déjà sur le qui-vive, ce qui ne m'arrive pas dans le métro parisien.
Vous êtes sur le qui-vive, ça veut dire vous regardez autour de vous.
Oui,
vous êtes...
il y a presque, c'est un langage corporel qui change. Ma démarche change, ma marche change, je marche différemment, je regarde autour de moi différemment, je regarde le ciel. Ce qui en France, de toute façon, et même dans d'autres pays, ne peut m'arriver que pour comprendre le temps qu'il va faire ou est-ce qu'il va pleuvoir. Tout ceci est très différent dès que je suis en Israël.
Alors, de Valfon, la guerre de Kippour a provoqué aussi un séisme politique. Une commission a été nommée, la commission Agranat, afin d'enquêter sur les manquements des forces de défense d'Israël. Et ça a provoqué aussi une remise en question totale de la théorie de la sécurité israélienne.
Ça va tout changer dans le monde du renseignement, puisque les juges vont être stupéfaits de ce qu'ils vont découvrir.
Alors qu'est-ce qu'on va découvrir ? On va découvrir qu'en fait, le Mossad était au courant et n'avait pas cru aux rumeurs d'une attaque surprise de l'Égypte et de la Syrie ?
Non, même pas. On va découvrir d'abord que le service de renseignement était au courant, effectivement, et l'avait transmis au gouvernement. C'est ça qui va être la grande surprise. Donc le Mossad avait, en fait, le Mossad qui était alors, il faut le dire, le service de renseignement le plus important d'Israël, c'est un service civil et non pas militaire, il est sous les ordres du Premier ministre. Alors, comme aujourd'hui, le Mossad avait deux informations qui ne concordaient pas. L'une était qu'il y allait avoir une attaque surprise le jour de Kippour de l'Égypte, il n'avait pas la Syrie, et le deuxième était que les Égyptiens et les Syriens allaient faire semblant d'attaquer Israël, d'accord, comme sorte de répétition générale ou pour enclencher une mobilisation générale le jour de Kippour. Par contre, le gouvernement avait reçu non seulement ces deux informations qui ne concordaient pas du Mossad, mais aussi un rapport de l'unité 8200.
Alors l'unité dans laquelle vous étiez,
alors une petite unité, hein, elle n'avait pas l'importance.
À l'époque, en 73.
Oui, elle n'avait pas l'importance qu'elle a aujourd'hui, mais elle était une unité militaire dans ce qu'on appelle communication intelligence, autrement dit les écoutes. Et le chef de cette unité, qui était alors seulement un colonel, c'est un général aujourd'hui, déclarait de façon très claire et noire sur blanc que face à tous les rapports qu'il recevait des différents postes d'écoute aux frontières, il pouvait dire avec certitude qu'une attaque surprise allait avoir lieu au nord et au sud le 6 octobre, jour de Kippour.
Et personne ne l'a écouté.
Personne ne l'a écouté. Le gouvernement a demandé des tas de spécialistes de comprendre, alors qu'il n'y avait rien à comprendre, hein, c'était très clair, pour essayer de se démêler, pour essayer d'être sûr. La commission n'a pas, en fin de compte, la commission n'a pas vraiment déclaré c'est la faute de Golda Meir ou c'est la faute de Dayan. Mais en tout cas, il n'a pas été cru. Ce qui, pour lui, d'ailleurs, a eu des conséquences personnelles tragiques. Puisque un mois après la guerre, quand le nombre de pertes a été évident, il ne s'est pas résolu à comprendre, il ne pouvait pas comprendre comment...
Ce colonel.
Oui, Oui, il avait rédigé pourtant un rapport très clair et il s'est fait interner. En fait, il a perdu sa raison. Et il a eu de très longues années de psychologue et de médicaments pour essayer de revenir à la vie, ce qui, je pense, n'a jamais été possible pour lui.
When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live.
You know you did.
But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die.
Dov Alphonse, vous avez reconnu évidemment cette chanson.
Bien évidemment.
C'est James Bond. C'est le James Bond qui sortait en 1973.
C'est un bel hommage, voilà.
Avec Roger Moore, le beau Roger Moore. Et c'était Vivre et laisser mourir. Oui. Vous vous en souvenez?
On s'en souvient de Grace Jones, à mon avis, sur la Tour Eiffel. Et ils arrivent à sauter et Roger Moore lui dit « On ne trouve jamais un taxi à Paris ».
Ah bah oui, vous connaissez vos classiques. Je me disais qu'on était obligé de vous passer cette musique à vous qui avez écrit ce roman d'espionnage et qui avait travaillé dans cette unité prestigieuse 8-200. Mais justement, en parlant de James Bond, on est loin de James Bond.
Tout à fait. En fait, la guerre de Kippour va faire en sorte, et surtout le rapport à Granat après, va faire en sorte que l'on comprend que le Mossad est dépassé par le monde moderne, que les services de renseignement, ce qu'on appelle human intelligence, donc les services de renseignement humains avec ses agents secrets, n'est plus du tout à la pointe.
Avec les filatures sur la pointe des pieds derrière l'autre, ça marche plus.
Si on dit à quelqu'un « vous êtes suivi », forcément il va regarder derrière son épaule. Mais c'était vrai alors, cela ne l'est plus. Si vous êtes suivi, ceux qui vous suivent se trouvent probablement à 4000 km de chez vous.
Voilà, maintenant ça c'est la différence entre 1973 et aujourd'hui. Et ça c'est le travail justement de cette unité 8200 pour laquelle vous avez œuvré, Dov Alphon, voilà. Quand vous étiez, quand vous faisiez votre service militaire et que après vous étiez réserviste chaque année.
Oui, c'est exact.
Alors moi je vais revenir à 1973 parce que en 1973 il se trouve qu'en France sortait un film d'espionnage. Ce film s'appelait Le Serpent. C'était un film d'Henri Verneuil. Le scénario avait été coécrit avec Gilles Perrault et c'était Yul Brunner qui jouait l'espion du KGB et Henri Fonda, celui de la CIA.
La CIA, au bord de la Seine, très précisément au studio de Billancourt, là où Henri Verneuil l'a fait reconstituer pour les besoins de son film Le Serpent.
Film about the Congress.
Un espion soviétique choisit la liberté. Tous les chefs de services secrets se disputent du coup le transfuge Yul Brynner.
Je n'ai pas du tout le physique d'un agent secret. Parce que d'habitude, ce sont des hommes qui ont des visages et des âmes grises. C'est ça une description qui m'a été donnée par quelqu'un de service d'intelligence aux États-Unis. Ils sont des hommes à visage et à âme grise.
Le serpent, cela pourrait être une histoire vraie?
Ça ne pourrait pas être, c'est une histoire vraie. C'est-à-dire que c'est plusieurs histoires vraies que dramaturgiquement nous avons construites pour faire une seule histoire, mais le mode de narration suit l'événement. L'événement tel qu'il s'est produit, et tous les personnages de ce film ont existé ou existent encore.
Dov Alphon, deux questions. Est-ce que les agents secrets sont des hommes gris? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Parce que vous en avez côtoyé, évidemment, en étant...
Forcément, oui, je suis plutôt d'accord, vu que, comme je l'expliquais, dans ces années-là, les services de renseignement humains, donc comme effectivement le Mossad ou la CIA, devaient employer des hommes qui devaient passer inaperçus. Et l'un d'ailleurs, vous pouvez reconnaître un agent secret dans un cocktail ou une soirée, en ce sens que si vous lui demandez ce qu'il fait, il va vous dire par exemple « je suis comptable dans une entreprise hollandaise ». Ce qui va jeter un froid dans votre conversation, vous allez avoir du mal à poursuivre les questions et donc il va pouvoir continuer à faire ce qu'il fait là-bas. Et effectivement, donc il y a quelque chose de très gris forcément dans ces couvertures-là.
Alors, autre question, est-ce que vous, dans votre roman Unité 8200, vous êtes, comme Henri Verneuil vient de le faire lui aussi, l'a fait aussi dans son film, est-ce que vous êtes inspiré de ce que vous avez, de ce dont vous avez été témoin quand vous étiez dans cette unité d'espionnage?
Forcément, je n'allais pas réinventer des scènes, des bases militaires, des opérations, alors que j'avais cela sur le vécu. D'ailleurs, pour reprendre, le serpent a été coécrit, si j'ai bien compris, par Gilles Perrault,
oui.
Qui plus tard a écrit le premier roman traitant d'unités de renseignement d'écoute, ça s'appelait le dossier 21. 51, excusez-moi, le dossier 51, exactement. Et donc la transition, pour lui aussi, était très claire. C'est ces années-là où l'on va passer de ces agents secrets gris à ces unités de renseignement technologiques extrêmement perfectionnées. Dans mon cas, contrairement à la France, Unité 8200 est une unité qui emploie des milliers. Donc forcément, c'est le service militaire, ils sont forcément jeunes. L'âge moyen d'un opérateur de l'unité 8200 est 19 ans et demi. C'est pour vous donner une idée de la différence. On est très loin de John le Carré ou même de James Bond. Ce sont des jeunes qui conçoit la technologie, les nouveaux médias et comment cela fonctionne de manière intuitive. Et c'est ce qui fait en réalité la force de cette unité par rapport aux unités lui ressemblant dans le monde.
Ça veut dire que, parce que l'unité 8200 aujourd'hui, c'est une des unités les plus prestigieuses et les plus respectées. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette unité 8200? C'est quoi?
Alors, grossièrement parlant, le monde de l'espionnage est divisé en trois parties. L'espionnage humain, donc on va avoir des agences, on en a presque plus, hein, des agents secrets qui vont prendre en filature, qui vont pénétrer dans un bureau pour photographier, etc.
Ouais.
On a ce qu'on appelle le SIGINT, le SIGINT signal intelligence, donc l'intelligence des signaux. Ça va être les radars, les avions qui vont photographier d'en haut, de très loin, les satellites espions même, les bateaux, les sonars, c'est l'univers Tom Clancy, c'est pour donner un auteur. Et enfin, la troisième partie qui devient qui est déjà la plus importante, communication intelligence. Donc c'est tout le monde des écoutes, ce sont les écoutes des téléphones portables, mais aussi les écoutes d'ordinateurs gérant vos données personnelles, par exemple les cartes de fidélité. Par exemple, si vous achetez quelque chose dans une supérette, vous allez donner votre carte, vos achats vont être gravés dans un disque dur. Donc ça appartient à la chaîne de supermarché dont vous venez de faire un achat, mais en réalité, au moins 5 services secrets mondiaux sont sur les ordinateurs de cette chaîne de supermarché pour savoir ce que ces gens-là achètent, à quelle heure et dans quel magasin.
Alors,
et donc toutes ces données appartiennent à ce monde qui est assez nouveau et qui est en quelque sorte, comment dirais-je, terrifiant.
Oui, tout à fait terrifiant, mais donnez-moi un autre exemple. Vous me parlez de ma carte de fidélité Monoprix, parce que là, on n'est plus à des écoutes avec des petits micros cachés dans des téléphones, et c'est en 70
ah non,
que
ça
baisse.
Non, pas du tout. Non, on commence par les téléphones, c'est sûr, puisque c'est quand même le plus simple. Il faut écouter des conversations téléphoniques. Puis, ce fut les téléx, les facsimilés, de nos jours, bien sûr, les mails, ce qui est quand même l'élément le plus important de nos communications. On dit souvent, enfin on ne dit pas, c'est une source officielle qui le dit, que 80% des opérations militaires israéliennes ne sauraient être si l'unité 8200 ne se déclare pas capable de la préparer. Donc, par exemple, le bombardement de la centrale atomique syrienne il y a 2 ans n'a pu avoir lieu avec cette précision que parce que l'unité 8200 pouvait donner tous les renseignements la concernant, autrement dit, non seulement l'emplacement, y a-t-il des personnes dans la centrale à cette heure-là, où se trouvent-elles, quels sont les produits qui s'y trouvent, y a-t-il un risque atomique sur l'eau, tout ceci provient d'écoutes qui ne sont pas seulement des écoutes téléphoniques, mais des écoutes, le terme écoute ne dit pas assez ce que
non.
C'est. C'est un espionnage gigantesque sur nos communications.
Alors, je vais juste lire un tout petit extrait de votre livre.
Mais prenez un grand, moi je suis d'accord. Hein.
C'est un de vos personnages principaux, enfin c'est Yerminski qui est recherché partout, par tout le monde, qui est justement un homme qui appartient à l'unité 8200, qui se planque, qui est à Paris, qui vient d'arriver dans sa chambre d'hôtel, et il ouvre sa valise, et de sa valise il sort une boîte. Et cette boîte, il se trouve que c'est un scanner. Et je vous lis ces quelques lignes. Le scanner entama sa recherche. L'une après l'autre, chaque connexion au réseau de l'hôtel apparut sur l'écran, à commencer par les chambres adjacentes. Dans les 3 premières, les clients étaient sur Facebook, ce qui ne lui était d'aucune utilité. Ceux des 2 chambres suivantes consultaient leur compte Gmail, et des lettres personnelles apparurent sur son écran. Une option qui lui offrait une marge de manœuvre s'il ne trouvait rien de mieux. Au 10e scan, le client de la chambre numéro 5348 apparut, occupé à consulter son compte sur une banque londonienne. Grave erreur. Une application qui conservait tous les mots de passe de l'usager apparut sur l'écran. Yermi n'avait pas besoin d'autre chose. Il commença à enregistrer l'écran et leva son verre de scotch mélangé à la santé du généreux donateur. Donc là, on parle d'une valise où quand on l'ouvre, on sait absolument ce qui est en train de... Enfin, c'est
alors,
incroyable, c'est inimaginable.
C'est incroyable peut-être, mais n'oubliez pas que là, ce protagoniste est loin de sa base militaire où il aurait des possibilités 1 million de fois plus perfectionnées que celle-là. Il est tout seul à Paris et donc ce qu'il peut faire, c'est un travail d'orfèvre, mais de très bas niveau. Et ça lui suffit bien sûr pour voir tout ce que les clients de cet hôtel sont en train de faire dans les chambres adjacentes.
Alors on dépasse largement, enfin on savait qu'on utilisait nos données personnelles et tout ça, mais ce que vous dites et ce que vous démontrez, et vous nous alertez là-dessus de Valfond, c'est qu'on est passé à un stade...
Oui.
Supérieur. On est espionné en permanence par les services secrets israéliens? Mais pas que.
Alors, je dirais quand même 5 pays qui sont capables de faire cela à cette échelle. C'est bien sûr les États-Unis, la Russie, la Chine, Israël. J'ajouterais la Grande-Bretagne. Et oui, on est espionné en permanence, et je vais vous expliquer la logique de cela, parce que vous allez me dire, moi j'ai une émission à France Inter le dimanche, très réputée, et j'espère très intéressante, et des millions... Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec les services secrets chinois ?
Absolument.
Pourquoi voudrait-il savoir ce que j'ai acheté au supermarché avant-hier ou qu'est-ce que j'ai sur mon compte en banque?
Ouais.
La raison est très simple. Le coût de vous espionner est passé ces dernières années, disons de 1 000 euros à 0,1 euro. Donc, pour eux, le fait d'espionner des millions de Français, Allemands, Scandinaves, Suisses, peut paraître paradoxal, mais les ordinateurs peuvent stocker cela pendant des dizaines d'années, sans que ça ne leur coûte pas grand-chose, ni du point de vue main-d'œuvre. Ni... Pour l'instant, ils ne recherchent rien dans votre vie. Ils se contentent de stocker votre vie, tout ce que vous faites chaque jour. Et donc, cela va rester pendant des années dans ces ordinateurs, et peut-être que ça ne les quittera jamais. Peut-être que personne, un jour, ne va demander qu'est-ce que Zoé Verdier a fait le 6 novembre ou le 12 novembre 2019 à Paris. Mais il est possible que dans 6 ans, vous allez rencontrer quelqu'un et ce quelqu'un est de grande importance pour les services secrets américains. Et donc, soudain, ils vont se demander qui vous êtes. Et c'est là qu'ils vont retrouver vos données.
Est-ce que vous avez écrit ce livre pour nous dire l'urgence?
Tout à fait.
L'urgence à légiférer. Est-ce que vous pensez que votre travail et votre message est similaire au lanceur d'alerte Edward Snowden?
Non, je ne peux pas me comparer à des gens qui ont sacrifié tout, enfin pas tout, mais, oui, mais quand même une grande partie de leur vie pour faire. Non, mais j'étais très étonné de voir que personne ne comprenait cela. Je ne voulais pas écrire comme Snowden un livre d'essai. Donc le roman m'a paru plus adapté pour faire comprendre le polar, pour faire comprendre au plus grand nombre ce qui se passe.
Je ne veux pas vivre dans un monde où tout ce que je dis, tout ce que je fais, toutes les personnes auxquelles je parle, dans un monde où tout geste créatif, tout geste d'amour ou d'amitié est enregistré. Je ne veux pas soutenir cela, je ne veux pas y contribuer et je ne veux pas avoir à le subir. Et je pense que quiconque refuse un tel monde a l'obligation morale d'agir, selon ses moyens. J'ai observé, j'ai attendu, j'ai essayé de faire mon travail de la façon la plus éthique qui soit. J'ai donc attendu pour permettre à d'autres dirigeants, à nos représentants, de corriger les excès du gouvernement lorsque nous allions trop loin. Mais ce n'est pas ça qui s'est produit. En réalité, nous aggravons les excès des administrations précédentes. Nous empirons la situation, la rendons plus envahissante, et personne ne s'y oppose réellement.
De Valfond, vous l'avez reconnu.
Je suppose que c'est Edward Snowden.
Voilà, c'est sa première interview en 2013, après ses révélations à Hong Kong.
Oui, c'est très beau ce qu'il dit. Est-ce que je peux faire de la surenchère là-dessus?
Bien sûr.
Vous allez me dire, non, ça suffit comme ça, nos auditeurs sont déjà... De la surenchère alors. Parce que Snowden, sa démarche, comme il l'explique très bien, c'est qu'il voudrait que les gouvernements qui sont concernés, donc 5-6 pays en tout... soit plus donc régularisé, qu'on vérifie leurs excès. Mon propos à moi, et j'espère que c'est clair dans du roman, c'est que non seulement, bien sûr, il faut légiférer là-dessus, mais que quand on dit « la Chine m'espionne », en réalité, c'est une trentaine de jeunes Chinois qui sont des êtres humains qui sont en train de vous espionner. Et quand on dit « Israël est en train de m'espionner », ce n'est pas Israël, ce n'est pas une entité métaphorique. C'est une trentaine de jeunes Israéliens, dont j'en connais certains, qui ont entre 18 et 22 ans, qui sont en train de vous écouter, comme Snowden le disait très bien, faire l'amour ou faire vos courses. Ce qui m'intéresse à moi, c'est de faire comprendre que ce sont des êtres humains qui sont en train de vous espionner, des dizaines, qu'ils s'échangent ces informations, que certaines leur sont très intéressantes, comme ils sont très jeunes, ça peut être des actrices, ça peut être des top modèles, ça peut être des chanteurs, mais ça peut aussi être des endroits, des cafés et bien sûr des supermarchés. Et là, il n'y a rien. Ni alerte là-dessus, ni question comment cela se passe. Si vous voulez, en étant un peu ambitieux littérairement, je dirais que je suis plutôt à la croisée de Graham Greene, de ce qu'il appelait le facteur humain, avec Snowden.
Journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
6 octobre 1973, c'était le début de notre conversation, Dov Alphonse. C'est votre journée particulière. En 1973, l'année 1973, c'est celle du choc pétrolier, qui est une des conséquences justement de la guerre du Kippour. Le 17 octobre 1973, en réaction au soutien américain à Israël, l'OPEP, les pays de l'OPEP, ont décidé d'augmenter de 70% le prix du baril de pétrole. Et en 1973, en France, on annonçait plusieurs mesures. On commençait à dire qu'on allait changer d'heure en hiver et en été, on l'annonce en 73. Et le 30 novembre 1973, notre premier ministre d'alors, Pierre Messmer, annonçait dans une allocution télévisée les mesures prises par le gouvernement pour faire des économies d'énergie.
Ce soir, je voudrais simplement faire le point avec vous de la situation du pétrole. D'abord, il nous faut économiser l'essence auto. Nous avons donc décidé de limiter la vitesse à 90 km à l'heure sur toutes les routes de France et à 120 km à l'heure sur les autoroutes. Et puis, il faut aussi limiter la consommation d'électricité parce que, dans notre pays, une grande partie de l'électricité est produite par des centrales au fioul. Nous avons décidé d'interdire de 10h du soir à 7h du matin la publicité lumineuse, l'éclairage des vitrines des magasins et les illuminations des monuments publics, sauf le samedi soir et pendant la période des fêtes.
Voilà, Dovalfond. C'était Pierre Messmer en 1973.
J'ai trouvé ça très français.
Pourquoi si français ?
Bah d'abord, j'aime bien Noël et le samedi soir.
Et en 1973, c'est quand même la première fois que les pays de l'OPEP utilisent le pétrole comme une arme.
Oui, tout à fait, mais surtout la France ne croit pas à la capacité de ces pays de s'entendre sur le prix du baril. C'est encore une fois une erreur d'espionnage. Les Français ne comprenaient pas comment le Venezuela allait accepter quelque chose de l'Arabie Saoudite. Donc tous les rapports disaient ils ne s'entendront jamais. Et le prix du baril donc n'atteindra jamais ces prix. Et ce fut une grave erreur de renseignement. Donc pour moi tout se rejoint.
Alors il y a eu encore une autre grave erreur de renseignement en 1973 en France. Il y a eu un scandale d'espionnage qu'on a appelé l'affaire des plombier. Oui. Est-ce que vous vous en souvenez,
oui,
de Valfond?
Oui,
de quoi il s'agissait?
L'espionnage des bureaux de la rédaction du Canard Enchaîné.
Voilà, c'est ça. Où des agents de la DST sont allés mettre des micros pour connaître les sources des journalistes.
Vous voyez que tout se rejoint parce que s'ils avaient fait à la méthode israélienne en espionnant de très loin ces bureaux et ces journalistes et ces rédacteurs en chef, cela n'aurait jamais été publié.
Ah, vous êtes en train de dire que si ça avait été l'unité 8200, alors là, ça serait passé comme une lettre à la poste.
Évidemment, c'est de l'amateurisme.
C'est de l'amateurisme. En 1973, il s'est produit des tas de choses très intéressantes qui résonnent avec aujourd'hui. La Grande-Bretagne entrait dans la communauté européenne, par exemple. On signait à Paris un accord de cessez-le-feu au Vietnam. Picasso disparaissait. C'était le début de la lutte des LIP, des ouvriers de LIP. Et en 1973, plus léger, de Valfond, avant de se quitter, Marie Laforêt chantait « Viens, viens, c'est une prière ». Michel Sardou, très français, « La maladie d'amour ». Et Dalida et Alain Delon chantaient ça.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbon et chocolat.
D'abord, c'est une chanson extraordinaire pour moi, j'adore. Et après, je pense que Dalida a bien compris le problème qui se pose à tout service de renseignement. Je ne te crois pas, je l'ai entendu. J'ai ses écoutes, j'ai ses enregistrements. Parce que pourquoi le Mossad n'a pas cru à la guerre de Kippour ? Parce que ils estimaient que c'était une fausse manœuvre destinée à leur dire « on se prépare à la guerre, mais il n'y en a pas ». Et donc elle se dit « il dit qu'il m'aime, mais il ne m'aime pas ».
Parole, parole, parole.
Voilà. Et alors... donc les services de renseignement ne peuvent rien faire contre la stupidité humaine. Donc pour moi, tout se rejoint.
Alors de Valfond, c'était en fait un test qu'on vous faisait. On voulait voir si vous pouviez encore rentrer dans l'unité 8200, parce qu'on a testé là votre dextérité intellectuelle pour pouvoir rebondir sur n'importe quel...
Tout est unité 8200, c'est ça qu'il faut comprendre.
Et vous êtes encore un homme de l'unité 8200. En tout cas, merci de Valfond d'avoir participé à cette émission passionnante. Je rappelle que votre livre Unité 8200 est sorti aux éditions Liana Lévy. Vraiment, je le conseille à tout le monde.
Merci.
C'était une journée particulière. Une émission préparée par Hugo Combes, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka, à la technique aujourd'hui, c'était Serge Viguet. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et surtout podcaster cette émission sur le site de France Inter. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Dov.
Merci.